Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité à introduire et animer cette première matinée, cette matinée, pardon. Donc je suis conservateur à la Bibliothèque universitaire d'Angers depuis quelques mois et donc par ailleurs aussi formateur à la fois dans mes anciennes fonctions à l'université d'Artois et activité de formation que je continue aussi par ailleurs à l'université OSCD d'Angers. Voilà. Alors, en guise d'introduction, je voudrais d'abord faire référence à un roman de science-fiction que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sans doute, celui de William Gibson, qui, dans un roman donc, publié en 1984, qui s'appelle Neuromancien, met en scène un hacker, Henry Dorset Case, qui est constamment, et même physiquement, si vous êtes un peu familier de la littérature cyberpunk, donc qui est physiquement relié au réseau, au cyberespace. Et à la suite d'une série de circonstances qu'on pourrait qualifier de malheureuses, Case perd toute capacité à se connecter au réseau. Et je reprends là le résumé qui est fait du livre Neuromancien dans la notice que Wikipédia lui consacre. Pour lui, tout est perdu, il n'est plus rien. Pour l'instant, le fait d'être déconnecté du web ne représente pas encore un danger physique. Pas encore. Par contre, la réalité décrite dans Neuromancien reste, on va dire, d'actualité, enfin, plutôt est tout à fait d'actualité dès lors qu'elle concerne notre environnement numérique ou, comme le dit Louise Merzo, notre écosystème numérique. Et le fait qu'aujourd'hui le web fasse partie, on va dire, intégrale de nos environnements familiaux et professionnels, en fait, est une banalité. Donc, je me contente juste de répéter, même si vous en avez toutes et tous conscience, je pense, aujourd'hui. Pour autant, les conséquences pratiques de la mise en place progressive, on va dire, à notre niveau individuel et familial depuis une dizaine d'années, enfin en tout cas à mon niveau depuis une dizaine d'années, ces conséquences pratiques, nous, bibliothécaires et bibliothécaires formateurs, je pense qu'on n'a pas fini de les mâcher, de les avaler, de les digérer, de les assimiler. La formation des usagers, car c'est bien ça aussi qui nous intéresse aujourd'hui, la formation des usagers représente quelque chose de, on peut dire, qui est tout à fait institutionnalisé dans le paysage des bibliothèques universitaires. Ça fait maintenant une quinzaine d'années, on remplit des statistiques dans le SGBU, ça mobilise chaque année des heures et des heures de temps de préparation, de formation, d'emploi du temps. Ça implique aussi maintenant des milliers et des milliers d'étudiants, et c'est heureux selon moi. Mais ce n'est pas faire injure aux collègues qui font de la formation en bibliothèque, et bien entendu je m'inclus dans ces collègues, que de dire qu'en fait cette formation des usagers se fait à marche forcée, derrière, ou plutôt derrière la révolution numérique qui est en marche. Voilà. Et par rapport à cet environnement numérique, il me semble qu'il y a souvent deux postures qui sont adoptées par l'équipe des bibliothèques, enfin, par les bibliothécaires qui font de la formation à SCD. Et je précise bien que je m'inclus aussi dans ces deux postures. Hein, voilà. La première posture, c'est de voir le bibliothécaire formateur comme un ingénieur des mines. L'idée, c'est que le bibliothécaire soit un peu comme un géologue. Son objectif, c'est de montrer dans les lignes de faille de l'information les bonnes ressources, les gisements qu'il faut utiliser, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont plus ou moins implicites. Alors j'en citerai quelques-uns de ces critères. Pourquoi ces bons gisements, ces bonnes informations? D'abord parce que ces gisements d'informations, je pense bien évidemment aux bases de données, mais aussi aux catalogues de bibliothèques, d'abord, ces gisements sont écrits par des enseignants-chercheurs. Donc ça, c'est un argument d'autorité. Voilà. Donc c'est écrit par des enseignants-chercheurs, donc forcément, il faut s'en emparer, il faut montrer ses ressources. Deuxième critère pour qui voit dans ce milieu, dans ces gisements d'information, c'est que c'est écrit dans le journal. Oui. Vous êtes peut-être tous et tous, vous avez tous et tous été amenés un jour à former des étudiants peut-être sur des bases de données comme Factiva. Alors pour celles et ceux qui ne font pas partie du monde feutré des bibliothécaires formateurs, Factiva en gros c'est une base de données qui coûte très cher et je pense que si n'importe quel SCD produisait une interface telle que celle-là, il se ferait huer par tous les collègues, par l'ensemble de la profession. Pourtant cette base de données coûte extrêmement cher, elle propose en termes de contenu à peu près entre 22 et 23 000 titres de presse française et étrangère, donc c'est absolument colossal. C'est écrit dans le journal, donc il faut. C'est intéressant. Troisième critère, ces ressources, on les a choisies pour vous, les étudiants malveillants, qui ne voulaient pas vous en emparer. Donc un argument d'autorité, c'est nous qui avons fait ces choix. D'accord. Et enfin, quatrième argument, mais la liste n'est pas exhaustive, bah, tout ça coûte cher. Et comme ce qui coûte cher a de la valeur, bien, il faut, vous devez, vous, les étudiants, aller voir ces gisements d'informations. Donc, dans tous les cas, ces gisements sont présentés comme pertinents, a priori comme pertinents, comme fiables, bien sûr, donc comme valides. Et souvent, on peut dire, le problème, c'est que nos bibliothécaires formateurs, nous nous arrêtons là. On a montré donc des gisements de ressources, très bien. On a montré les filons, c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais c'est tout. Parce que matériellement, on n'a pas le temps. Parce que le nombre d'étudiants informés, notamment en L1, avec, je pense, au plan réussite en licence qui a introduit un certain nombre de d'UFR et de départements à introduire dans ses cours de méthodologie des formations et documentation, qui ont donc impliqué les bibliothécaires, mais donc avec des cohortes, il faut bien le dire, de L1 qu'il faut former, ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et puis aussi parce qu'on pense qu'un étudiant de master ou un étudiant de doctorat, spontanément, implicitement, a de fait déjà les compétences et les capacités pour appréhender ces différentes ressources et pour pouvoir lui-même porter un jugement critique sur ces ressources. Dernier point aussi, on ne va pas plus loin dans le fond de ces gisements, gisements documentaires parce que je pense aussi qu'on a parfois un problème de compétences par rapport à la manière d'appréhender justement ces gisements. J'y reviendrai. Pourtant, ce qu'on donne là en fait à nos étudiants, c'est du minerai brut. C'est du gisement à l'état brut en fait. C'est pas suffisamment exploité. Et donc ce qui renvoie, ça m'envoie maintenant à la deuxième posture qu'on peut voir, il me semble, souvent chez les bibliothécaires formateurs, c'est de voir la bibliothèque comme une île assiégée, en fait. Assiégée non pas par des armées, bien sûr, physiques, mais par l'océan documentaire, en fait. Ce qui veut dire qu'on ignore volontairement, ou non, le grand extérieur, l'ailleurs. Les vastes étendues, excusez-moi, je suis un peu lyrique ce matin, mais de l'océan d'information. En gros, Wikipédia? Non. L'encyclopédia universalis. Il y a une question-réponse, ou alors les forums de auféminin.com. Allez voir sur les forums d'auféminin.com. Il y a des gens qui ont besoin de réponses, ça c'est sûr. Non, c'est Ubib, rue des facs, les guichets du savoir. Google? Non, non. OPAC, catalogue de bibliothèques. En termes de formation, je m'inclus aussi bien sûr, je précise bien, en termes de formation, c'est ça. Voilà, je me souviens, je livre à titre anecdotique, vous avez sans doute, dans de nombreux établissements, vous utilisez sans doute la plateforme Moodle, donc une plateforme de cours à distance. Il y a un petit plugin dans Moodle qui permet d'implémenter Wikipédia. Donc, c'est-à-dire que les étudiants se connectent à Moodle et hop, ils ont Wikipédia. Il y a quelques années, dans le SED où je travaillais, ça a posé problème. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre l'encyclopédia Universalis à la place de Wikipédia? Oui, mais non, c'était pas possible parce que Moodle, c'est du libre et voilà, c'était le plugin était implémenté comme ça. C'est sans doute possible, mais en gros, la DSI n'avait pas envie de s'embêter avec ça. Voilà, donc Wikipédia est resté Wikipédia, en tout cas un certain temps. Or, il me semble qu'aujourd'hui, l'enjeu, est, il me semble que ça va être aussi l'enjeu de ces journées, c'est pas seulement de montrer des chemins vers des ressources validées. Et loin de moi ici, l'idée de critiquer, de tout niveler, de mettre au même niveau les ressources qu'on trouve sur Wikipédia, l'Encyclopédia Universalis, etc., etc. Non, c'est pas ça. Mais c'est que il faut que nous, bibliothécaires formateurs, nous puissions, à mon avis, nous positionner sur ces ressources qui sont utilisées quotidiennement par nos utilisateurs. Autrement dit, de même que les bibliothèques ou les pages Facebook vont sur des comptes Twitter, etc., etc., entreprise à mon avis tout à fait louable, il faut que nous aussi, nous soyons capables de nous positionner sur sur ces gisements de formation qui sont eux aussi bruts, mais qui sont utilisés quotidiennement par nos étudiants. Est-ce que nous faisons toujours l'effort de former ces étudiants à ces données? Est-ce que dans les cours que l'on donne, il y a, avant de présenter l'encyclopédie Universalis, avant de présenter les encyclopédies papier, est-ce qu'il y a des modules de formation sur Wikipédia, par exemple? Il me semble que ça peut se faire. À mon avis, c'est encore trop rare. Et je ne dis pas, là encore, j'insiste bien, je ne mets pas les deux entités sur le même plan, quoique, dans un certain nombre de disciplines, je pense que ce serait possible, mais je pense que nous devons faire cet effort-là. Cet effort, c'est-à-dire celui de s'immerger dans des ressources hybrides, dans des ressources bâtardes, qui sont construites par et pour les utilisateurs, souvent avec l'aide de complices et appuyés d'un certain nombre de multinationales. Voilà. Et en tout cas, si nous le faisons, si nous formons à ces étudiants, à ces outils, c'est quand même malgré tout un petit peu malgré nous, quoi. Voilà. Alors, par rapport à ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'enjeux qu'on va aborder là déjà dans cette première, dans cette journée, dans cette première matinée. C'est que à nous de nous positionner, à mon avis, sur déjà dans un premier lieu sur la question, comme Anne-Marie Bertrand vient de souligner, de ce qu'on appelle les media literacy. À nous de nous positionner, je pense, sur ces médias sociaux. Très schématiquement, depuis une bonne décennie maintenant, le bouleversement qui concerne les médias, il concerne d'abord une hybridation des formes et des rôles. Déjà entre acteurs traditionnels, je vous rappelle là aussi pour l'anecdote qu'il y a quelques années, des sites de presse écrite belges ont porté plainte contre le site de la RTBF, parce que le site de la RTBF se transforme en site de production de contenu écrit. Et que donc, à ce titre, ces journaux belges, qui sont des journaux donc qui fonctionnent sur des capitaux privés, contestaient le fait que la RTBF, donc un organisme public belge, puisse lui-même être un producteur d'informations au même titre, plutôt sur des données publiques. Ce qui était contesté, c'était le fait que ça fonctionne sur données publiques, au titre de la concurrence déloyale. Donc on a une hybridation, déjà, des formes médiatiques elles-mêmes, entre radio, presse écrite, télévision, tout ça se mélange, pour le meilleur et aussi pour le pire. Et il y a également hybridation entre, évidemment, maintenant tout ce qui apparaît comme, enfin tout ce qui existe comme blog, site personnel ou institutionnel. Deuxième axe au niveau de ces médias littératifs, me semble-t-il, c'est celui d'une sorte de rupture, en tout cas d'une cassure des schémas qui est purement verticaux, qui, on va dire, ont sédimenté l'organisation des médias depuis leur création. En gros, en passant de médias few to many, donc un média qui se distribue qui est distribué à une foule de personnes, à des médias qu'on qualifie, là aussi je pense que c'est une posture à critiquer, de many to many. Les gens sont en mesure de dialoguer avec les uns les autres, de produire du contenu. Alors, ça introduit de nouveaux schémas de légitimation, mais ces nouveaux schémas, à mon avis, bousculent les hiérarchies actuelles. Bien entendu, il y a aussi tout ce qui concerne une concurrence exacerbée entre nouveaux acteurs. On cite souvent l'exemple de Twitter. Twitter qui, dans la production simple d'un scoop, en fait, est devenu vraiment un concurrent, semble-t-il, des médias traditionnels. Avec de nouveaux acteurs, donc, qui fixent eux-mêmes les règles, notamment les règles économiques. Je pense à Apple, en matière de contenu, de format, etc. Bref, on assiste à une explosion de la notion de média. Or, nous, en bibliothèque universitaire, et je pense à ces fameuses bases de données qu'on paie fort cher et dont on essaie vraiment de faire la promotion lors de nos formations, nous, on reste très souvent positionnés sur les formations qui sont liées aux médias traditionnels ou classiques. Voilà. On a quelques abonnements papier, et on a d'énormes gisements d'informations sous forme de bases de données numériques. Avec un constat général, c'est qu'on forme peu, me semble-t-il, sur les contenus eux-mêmes. On rentre rarement sur la production d'informations, sur le statut de la parole journalistique, de l'écriture journalistique, les niveaux discursifs, les types d'argumentation, etc. Alors qu'il y a une tradition en information, en communication et en sociologie critique, une très longue tradition d'études sur ces sujets. Or, il me semble, mais je suis prêt à en discuter, bien évidemment, et à entendre toutes les contre-vues d'expérience, il me semble justement que on reste encore très en deçà de ce qu'on pourrait faire. Voilà. Alors, ce sont donc quelques-unes de ces notions, j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder avec France Remuti, qui est maître de conférences et directrice du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, qui est connue pour son travail pédagogique à destination des enseignants du primaire et du secondaire notamment. Je pense à la semaine de la presse à l'école. Donc, moi, quelques questions que j'ai envie de poser en tant que bibliothécaire, en tant que formateur, en me disant, mais comment est-ce que vous, au niveau du CLEMI, comment est-ce que vous pensez, justement, ces nouveaux médias, comment est-ce qu'on peut former, là aussi, sans avoir l'idée qu'on nivelle tout, mais que pour un certain nombre de nos usagers, ce nivellement est déjà bien présent, en fait. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent, je me perçois que je suis un petit peu long, mais je vous rassure, je vais essayer d'abréger, laisser la parole aux intervenants qui ont, je pense, vraiment quelque chose à dire, voilà, par rapport à ces questions. J'ai parlé de médias sociaux et du fait que l'information et également le savoir n'étaient plus produits exclusifs, donc d'une petite catégorie, soit d'experts, j'aime pas trop l'expression, mais en tout cas une catégorie d'individus, principalement journalistes et enseignants, qui avaient jusqu'à présent le monopole de la production d'information. Parce que ce que donne aussi à voir le web, c'est donc une floraison de noms propres, en fait. On a des noms propres, partout, qui sont généralement des pseudonymes, très souvent aussi des anonymes, mais qui sont amenés à produire l'information, à commenter, à critiquer, qui, on va dire, ne sont pas forcément co-constructeurs de l'information, ça serait beaucoup dire, mais qui, en tout cas, contribuent à la transformer et la modifier. Du coup, cette question élémentaire qu'on pose quand on évalue l'information, qui es-tu, toi qui écris, on peut aussi du même coup la renverser et se poser la question du qui suis-je, moi qui suis sur le web et qui suis moi aussi lecteur et producteur d'information. Donc ce qui renvoie à la deuxième dimension qui sera abordée dans cette matinée, celle de l'identité numérique, ou plus exactement comme le propose Louise Merzeau, celle de la présence numérique. Donc Louis Merzeau est maître de conférence en information et communication à l'université Paris-Ouest La Défense. Elle est photographe, elle tient un blog, et donc elle mène une réflexion et tout un travail justement sur ces questions de présence numérique, de traces numériques, et tout un rapport qui est aussi une distance critique, en fait, un regard critique sur ces questions, et je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder. D'autant plus que nous, en formation, on est amené à mettre en place, à appliquer pour certains d'entre nous, la nouvelle mouture du C2I, Certificat Informatique Internet, qui fait la part belle, justement, dans un de ses modules, aux questions d'identité numérique. Voilà. Alors, justement, quelques questions qu'on pourra se poser. Est-ce qu'on pourra déjà faire un tri dans ces différentes notions, identité numérique, présence numérique, e-réputation, personal branding, etc. Question aussi que moi, j'aurais envie de poser, c'est comment vous, chercheurs et chercheuses en Infocom, vous travaillez concrètement ces notions avec les étudiants? Il me semble que c'est des points sur lesquels nous, on a beaucoup à apprendre. Question que je pose envoie à la profession des bibliothécaires, c'est qu'est-ce qui nous donne, nous, notre légitimité à former les étudiants sur ces questions? Quelles sont nos compétences par rapport à ça? Question d'identité, de présence numérique. Et ce qui interroge aussi notre propre identité et notre propre présence numérique professionnelle. Voilà, qui n'est pas, je pense, toujours très très clair. Et donc, pour discuter de ces questions, nous accueillons également Karine Garcia, qui est, je reprends les traces de votre présence numérique donc sur Internet, animatrice de communauté, facilitatrice et connectrice. Donc, vous trouvez ça sur Viadeo, voilà, et qui travaille en particulier à la médiathèque de la Schema Business School à Lille. Voilà. Donc, j'ai été un petit peu long, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de questions, un certain nombre d'enjeux qu'on se pose. On est, à mon avis, très en attente. Donc, j'invite les intervenantes de cette matinée à nous rejoindre et puis à commencer la discussion, si vous voulez bien. Je vous remercie.